VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En RDC, 5 tués dans un nouveau massacre hier soir attribué aux rebelles ougandais des ADF près de Beni, dans le nord Kivu. À Beni même, l'opération Ville Morte Illimitée continue à l'appel de la société civile qui accuse le gouvernement congolais de n'être pas suffisamment engagé contre les tueries répétées que commettent les ADF dans la province. Le point avec Eddy Issango.
Les mots d'ordre ont bien été suivis à Beni pour la toute première journée de la Ville Morte Illimitée. Les leaders de la société civile annoncent que leur action se poursuivra jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour arrêter les massacres répétés dont la population de cette partie de l'est du pays est l'objet de la part des combattants du mouvement islamiste ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF. Kizito Binhang de la SADO à Beni indique que la société civile est révoltée de ce que rien n'est changé depuis la promesse du président Joseph Kabila qui s'était rendu dans la zone l'année dernière après une série de massacres, lesquels massacres n'ont jamais cessé depuis. De son côté, le gouvernement attend de juger les leaders des ADF arrêtés en Tanzanie la semaine dernière. Selon Kinshasa, Jamil Mukulu, qui dirige les ADF depuis quelques temps, doit être extradé à Kinshasa plutôt qu'à Kampala. Il a commis plus de crimes en RDC que dans son pays d'origine, a indiqué le ministre des Affaires étrangères congolais, selon qui une demande d'extradition a été formellement adressée à Dar es Salaam.
Crise burundaise, la secrétaire d'État adjointe américaine pour les affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, participera demain au sommet de la communauté d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam en Tanzanie, qui doit porter sur la situation au Burundi. Madame Greenfield compte réitérer le soutien de Washington à l'accord d'Arusha et à un dialogue politique entre toutes les parties burundaises pour assurer des élections pacifiques, crédibles et inclusives au Burundi. En Afrique du Sud, grande première politique, un noir enfin à la tête du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Lors d'un congrès à Port Elizabeth, Mumusi Maimane, 34 ans, a été choisi pour remplacer Ellen Zille, 64 ans, qui avait annoncé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat de leader de l'Alliance. Pour un coup de projecteur sur le nouveau chef de file de l'opposition sud-africaine, Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg David Zoumenou, chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud.
Mousi Maïman est un jeune politicien qui a su gravir très rapidement les marches pour se retrouver dans la position de leadership au sein de l'Alliance démocratique. Il était jusque-là le porte-parole de l'Alliance démocratique à l'Assemblée, pressenti pour jouer un plus grand rôle. Le parti lui a accordé sa confiance. Donc c'est un jeune tribun. C'est également une gueule dans l'arène politique sud-africaine et surtout, c'est une jeunesse qui continue d'incarner les valeurs d'unité, les valeurs auxquelles, en tout cas, le parti s'est engagé depuis la fin de l'apartheid et qui veut tout faire pour briser le monopole de l'ANC sur l'arène politique sud-africaine.
Maïman devient le premier noir à diriger l'Alliance démocratique. Quelle importance revêt ce facteur?
Je pense que l'important se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la confiance accordée à la jeunesse au sein de ce parti conservateur. Parce qu'on a vu jusque-là, après Tony Léon, on a eu Hélène Zille, qui est une vétérane de la lutte anti-apartheid, élément qu'on a très peu souligné, et qui a essayé de porter le parti vers la communauté noire. Et c'est là que vient le second point en termes d'importance pour l'élection de Maïman. L'Alliance démocratique s'est rendue compte que la configuration actuelle ne permettrait jamais au parti d'accéder au pouvoir. Et que si le parti devait vraiment remporter des élections présidentielles et diriger l'Afrique du Sud, il a intérêt à taper dans l'électorat noir. Et aussi, c'est un appel pour simplement renforcer la position de l'Alliance démocratique au sein de la communauté noire, au sein de la jeunesse sud-africaine, en leur offrant une autre image de ce que l'Alliance démocratique a représenté jusque-là, c'est-à-dire le parti des Blancs, dirigé par des Blancs, pour la préservation des intérêts des Blancs.
Quelles sont les chances de l'Alliance démocratique avec à sa tête Maïman face à l'ANC?
Je pense que le défi va être colossal. pour lui, parce qu'il y a déjà beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que c'est une marionnette et il va être utilisé comme appât pour glaner les voix des Noirs et ne va pas vraiment jouer un rôle substantiel dans la transformation de l'Alliance démocratique. Mais je pense que l'Alliance démocratique a eu l'opportunité de jouer le franc jeu, de lui accorder le soutien dont il a besoin, de l'aider dans sa stratégie de conquête de l'électorat noir, blanc ou métis, pour pouvoir vraiment réaliser un jour le rêve d'assumer le pouvoir.
David Zoumenou, chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud à Johannesburg.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali. 8 militaires tués lundi dans le nord-ouest du pays dans une embuscade tendue par la rébellion à dominante Touareg, non loin de Tombouctou. Des précisions avec Yaya Tandina, journaliste à l'ORTM, la radio nationale malienne, au micro de Bagassi Koura.
C'est une mission des FAMA. Les FAMA, c'est les forces armées maliennes de sécurité, venant de Goundam, une équipe de relève qui devrait rallier Tombouctou et qui a été victime à 25 km au côté ouest de Tombouctou d'une embuscade. Juste quand le convoi passait, une roquette anti-char a été tirée et automatiquement, les hommes étaient piégés. Ceci étant, les dégâts ont été nombreux. Nous avons remarqué la disparition de 2 véhicules, un véhicule sur le terrain brûlé. Ensuite, il y a eu 8 morts, 11 blessés. Et l'armée malienne, de son côté, a fait aussi un prisonnier vivant que j'ai pu interviewer, qui me dit qu'il s'appelle Mohamed Abdel Mouloud. Tombouctou est en deuil du moment où la plupart de ces jeunes soldats qui sont morts sur le terrain sont des ressortissants de la région de Tombouctou.
Le journaliste Yaya Tandina, joint à Tombouctou. Moussa Dadis Camara, candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. L'ex-chef de la jeune guinéenne a fait cette annonce en personne hier à Ouagadougou au Burkina Faso, où il vit en exil depuis 2010. Il justifie sa décision par sa volonté de mettre fin aux souffrances de ses compatriotes, dit-il. Pour les réactions en Guinée à la candidature de Moussa Dadis Camara, écoutons le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Moussa Dadis Camara, candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée, une annonce faite quelques jours seulement après une manifestation de plusieurs centaines de femmes dans le sud du pays réclamant son retour au pays. Une candidature qui fait débat à Conakry.
Pour moi, c'est bien parce que c'est un Guinéen comme nous tous. Je pense que ouais, il peut faire l'affaire aussi.
Il a le droit de se présenter en tant que Guinéen, vu les antécédents du CNDD, vu tout ce qui est en cours, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va encombrer le pouvoir en place?
Moi, personnellement, pendant sa gouvernance, j'ai compris qu'il a été pour moi le premier président qui a gouverné honnêtement et qui peut faire mieux.
Sa candidature est la bienvenue. Elle se présente aujourd'hui. Moi, je vote pour lui parce que j'ai décidé de ne pas voter pour les autres là.
L'ex-chef de la junte au pouvoir en Guinée après le décès de Lansana Conté est cité dans la répression sanglante du 28 septembre 2009 qui a fait au moins 150 morts selon une enquête des Nations Unies. Dadis doit rendre compte à 10 ce citoyen.
Je me demande où est la justice dans ce pays quand j'apprends, malgré les événements du 28 septembre, que le chef de la junte se présente en tant que leader du parti politique pour les prochaines élections dans mon pays. Je suis désolé pour cette future génération qui pense à un avenir meilleur avec des gens qui sont présumés coupables de l'événement du 28 septembre.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La tragédie des migrants en Méditerranée, la chef de la diplomatie européenne a promis hier au siège de l'ONU à New York que les migrants et réfugiés secourus en Méditerranée ne seront pas rapatriés contre leur gré. Morgane Guiriec nous en dit plus.
S'adressant au Conseil de sécurité pour la seconde fois en 2 semaines, Federica Mogherini a souligné que la crise qui contraint les migrants africains et arabes à tenter la périlleuse traversée vers l'Europe n'a pas de solution magique, mais requiert une réponse globale. Pas question de les renvoyer de force chez eux, a promis la chef de la diplomatie européenne.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back against their will.
Laissez-moi vous assurer explicitement qu'aucun réfugié ou migrant intercepté en mer ne sera renvoyé chez lui contre son gré. Leurs droits sous les conventions de Genève seront intégralement respectés. Madame Mogherini a expliqué que la Libye constitue le principal pays de transit de ces migrants. tant qu'il n'y aura pas un gouvernement d'union nationale à même d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire libyen et les frontières maritimes, cette situation perdurera, avertit la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain John Kerry doit avoir des consultations aujourd'hui en Russie avec le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, entre autres. Au programme des discussions, les questions bilatérales et le dossier nucléaire iranien.
Soyez au cœur de l'info.